Crime en sarcophage.
Les chroniques gastrosophiques du professeur Rosmini.
Une des ambitions de la philosophie est sans doute de purifier le langage de ses imperfections, de ses ambiguïtés, de ses confusions. Or ce projet, comme Wittgenstein l'a montré dans les investigations philosophiques, est une tâche impossible et peut-être même dangereuse, écrit-il, puisque l'ambiguïté, l'aspect flou de beaucoup de concepts est en fait une condition de la communication et puis une condition aussi de l'expression des affects et de la création poétique, littéraire, etc. Cela dit, il n'empêche que lorsque les concepts sont trop flous, et surtout lorsqu'ils ambitionnent une certaine forme de scientificité, eh bien ils donnent lieu à beaucoup de faux débats. Et c'est le cas par exemple des polémiques actuelles autour de ce qu'on appelle la gastronomie moléculaire. Gastronomie moléculaire, polémiques donc qui sont alimentées par exemple par les texturas, ces produits chimiques inventés par Ferran Adrià, le célèbre restaurateur catalan, dans sa cuisine techno-émotionnelle, et qu'ils commercialisent d'ailleurs à des prix assez onéreux et donc qui sont discutés par rapport à leurs effets sur la santé, ou bien aussi par une récente affaire d'intoxication de clients du Fat Duck, le célèbre restaurant de Londres, qui lui aussi s'inscrit dans cette mouvance de la gastronomie moléculaire.
La gastronomie moléculaire est un mouvement qui revendique l'apport des scientifiques aux cuisiniers. Il faut expliquer que ce n'est pas un genre, mais que c'est bien l'avenir de la cuisine. Disons un des deux ou trois piliers du futur. Si nous le faisons bien, aujourd'hui, eh bien, dans 300 ans, on dira qu'au XXIe siècle, on a révolutionné l'art culinaire, en poussant les cuisiniers à vouloir connaître le pourquoi des choses, à vouloir connaître la culture, connaître l'histoire, tout ça. Et je crois que le XXIe siècle de la cuisine sera celui de la connaissance.
Alors le 15 avril 2009, au lycée hôtelier de Marseille, l'association Slow Food a organisé une conférence, débat, très intéressante, qui a permis d'éclaircir justement les concepts et donc de mieux poser les problèmes autour de cette idée de gastronomie moléculaire. La conférence a été donnée par Christophe Lavelle, biophysicien, chercheur au CNRS et spécialisé justement dans la gastronomie moléculaire. Alors, il est parti d'abord d'une distinction conceptuelle et comme on le sait, comme je l'ai dit, les distinctions conceptuelles sont intéressantes pour évacuer certains faux débats et Socrate le disait déjà dans le Gorgias. Donc d'abord, il a commencé par distinguer en fait gastronomie et cuisine. Et cette distinction, elle est basée sur une vieille distinction aristotélicienne en fait entre épistémé et techné qu'il convient de préciser. Alors le concept de gastronomie, et qui est souvent assez vague, a été précisé par Christophe Lavelle comme la science des transformations alimentaires. Finalement, la gastronomie serait à l'alimentation ce que l'astronomie est aux étoiles ou aux planètes. Autrement dit, la recherche de lois, la recherche de déterminisme, et d'ailleurs, dans gastronomie, le nomir renvoie au grec nomos, qui signifie justement les lois qui régissent les phénomènes. Donc la gastronomie ainsi conçue, la gastronomie moléculaire en l'occurrence, serait une pure recherche de connaissances, une recherche désintéressée, au sens où elle ne cherche pas à agir sur les choses, mais simplement à les comprendre, et c'est justement ce qu'Aristote a appelé l'épistémé, connaissance désintéressée, connaître pour connaître. Par contre, la cuisine, bien évidemment, nous le savons tous, relève elle non pas de l'épistémé, mais de la techné, c'est-à-dire de la technique. Hein. Lorsqu'on cuisine, on a bien le projet de créer quelque chose de concret, et qui plus est, qui réponde à nos désirs et à nos besoins, en l'occurrence le besoin de s'alimenter. Or, on sait que la techné et l'épistémé, ou pour le dire plus simplement, l'histoire des sciences et celle des techniques ont longtemps été déconnectées. Tout d'abord, bien évidemment, l'histoire des techniques est pour l'homme beaucoup plus ancienne, puisqu'elle remonte à la préhistoire que l'histoire des sciences, qui n'est finalement pas si vieille que ça, à l'échelle de l'existence de l'humanité. Et leurs rapports, en fait, ont surtout été établis entre la science et la technique depuis la Renaissance, et plus encore, bien sûr, depuis la Révolution industrielle. Donc même si aujourd'hui on sait que les rapports entre sciences et techniques sont profonds, on parle parfois d'ailleurs de technosciences, il faut continuer quand même, au moins conceptuellement, à distinguer les deux buts qui sont d'une part de connaître et de l'autre de transformer le réel selon nos projets.
Oui, non, mais les cuisiniers font pas de science, de toute façon. Aucun cuisinier ne fera de gastronomie moléculaire. Les cuisiniers peuvent faire de la cuisine moléculaire. Donc Ferran Adria, Eston Blumenthal, Christelle Gendre, Pierre Gagnère font des applications de ce qu'on découvre ici. Si la science produit des connaissances nouvelles, ce qui est son but, à ce moment-là, on peut en avoir des applications. S'il n'y a pas de connaissances nouvelles, on n'a pas d'application.
Alors Christophe Lavelle, donc, lui, il travaille dans le domaine de la gastronomie scientifique, donc de la recherche. Et donc, la gastronomie moléculaire était définie comme la science des transformations culinaires, qui d'ailleurs peut porter sur les choses les plus simples. Hein. Pourquoi est-ce qu'une mayonnaise monte ou pas, comment est-ce que cuit un œuf dur, etc. La gastronomie moléculaire ne travaille pas forcément sur des mousses et des écumes très compliquées, mais travaille au contraire à la base sur des choses très simples. D'ailleurs, un des scientifiques qui a inventé la gastronomie moléculaire disait « C'est quand même étonnant qu'on connaisse mieux la température au sein d'un nuage interstellaire » qu'au sein d'un soufflé au fromage. Voilà. Alors, la gastronomie moléculaire, en cela, on peut faire un parallèle avec la philosophie, elle travaille souvent à partir de la doxa, de l'opinion, des proverbes, des dictons, et Dieu sait s'il y en a autour de la cuisine. Et donc, l'idée, c'est de tester la valeur de vérité de ces proverbes, d'affiner les définitions, ouais, avec ce fameux travail conceptuel dont je parlais tout à l'heure, et puis de procéder à des classifications, à des modélisations, puisqu'on sait que la science vise à connaître les lois, encore une fois, donc il faut bien les modéliser. Et par exemple, Hervé Thys, donc, qui est un très célèbre chercheur en gastronomie moléculaire, a commencé par recueillir des dictons. Il en aurait, paraît-il, recueilli à peu près 20 000, donc c'est pas rien. Et l'idée est donc de mettre à l'épreuve ces dictons selon des tests, hein, des procédures expérimentales purement scientifiques, qui peuvent d'ailleurs être des tests chimiques ou bien des tests gustatifs aussi. Alors, finalement, cette histoire nous amène à une réflexion intéressante sur le rapport entre la vérité et la vraisemblance. Puisque certains dictons semblent vrais et sont vrais, certains dictons semblent faux et sont faux, par exemple l'idée qu'il faut toujours tourner la mayonnaise dans le même sens pour qu'elle monte, bon, on ne voit pas trop pourquoi, effectivement, ça, c'est faux. Certains dictons semblent vrais et sont faux, et certains dictons aussi semblent faux et sont vrais. C'est par exemple le cas, nous a raconté Christophe Lavelle, d'un dicton selon lequel lorsqu'on fait rôtir un petit cochon entier, il faut lui couper la tête pour que la viande reste croustillante quand on le serre. Alors à la base, ça ressemble un peu à un rite vaudou, un rite magique. Et en fait, pas du tout. Hein, c'est parce que le fait de couper la tête évacue de la vapeur et donc permet à la chair de ne pas trop se ramollir et de rester croustillante.
La cuisine, c'est d'abord la connaissance. Par exemple, depuis à peu près un siècle, et sans doute à cause d'Escoffier, d'Auguste Escoffier, on enseigne dans les lycées hôteliers que pour faire de la mayonnaise, il faut de la moutarde. Ça n'est pas vrai. Quand vous regardez l'histoire de la cuisine, il n'y a jamais eu de moutarde dans les mayonnaises, au point même qu'en 1934, un cuisinier célèbre qui s'appelait Phileas Gilbert écrivait dans ses livres en s'emportant « Non, 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 pas de moutarde dans la mayonnaise ».
Réflexion aussi intéressante sur la résistance du réel lui-même, de la matière, à notre volonté d'en dégager les lois abstraites, les lois générales, des lois qui vaudraient partout et toujours, selon la définition de la science d'Aristote qui dit justement qu'il n'y a de science que du général. Alors, Christophe Lavelle nous a expliqué donc qu'ils avaient testé deux dictons qui semblent contradictoires. Un qui dit « lorsqu'on réduit le vinaigre, lorsqu'on le fait bouillir, qu'on le réduit, ça diminue l'acidité ». Et l'autre qui dit au contraire que lorsqu'on le réduit, ça augmente l'acidité. Eh bien en fait, ça dépend. Ça dépend des vinaigres et donc il n'y a pas de loi générale à cet égard. Et donc le vinaigre fait partie donc, de ces entités matérielles qui résistent à la volonté de trouver des lois générales justement. Alors, bien entendu, on le voit aussi, comme toute science, la gastronomie moléculaire participe à ce qu'on a appelé le désenchantement du monde, puisqu'il s'agit aussi d'éliminer des croyances infondées, des superstitions, des légendes, et donc nous sommes dans un travail de démystification.
Ah oui, mais ça permet de monter 1 mètre cube de blanc neige, parce que ce qui manque au bout d'un moment quand on rajoute de l'air, c'est de la place dans l'eau pour mettre des bulles. Vous voyez, là, il n'y a pas beaucoup de place. Ben, si vous rajoutez de l'eau, vous battez, vous rajoutez de l'eau, vous battez, vous rajoutez de l'eau, vous battez, vous montez 1 mètre cube de blanc neige. 1 mètre cube, je vous rappelle, c'est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre de blanc neige avec un blanc d'œuf. Donc si vous faites un quart de litre avec un œuf, c'est du gâchis.
Donc, bon, on l'a dit, définir la gastronomie moléculaire peut être assez simple et assez rigoureux, comme on vient de le voir. Par contre, définir la cuisine moléculaire, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord parce qu'au sens strict, toute cuisine est moléculaire. Quand on cuisine, on agit sur la matière qu'on, qu'on fait cuire ou qu'on fait mariner, etc. Donc, on agit sur les molécules. Alors, dans le sens actuel, tel qu'on l'utilise ou tel qu'il est utilisé comme argument commercial par certains chefs, ça désignerait en fait plutôt un style, hein, une esthétique culinaire qui serait inspirée par les techniques nouvelles qui seraient elles-mêmes issues en partie de la recherche scientifique. Donc, on voit quand même qu'il y a un écart entre tout ça. Donc, c'est cette cuisine moléculaire qui a donné la mode des billes, des mousses, des gels, des écumes, des spumas, des textures et des couleurs plus ou moins étranges, en sachant d'ailleurs que ces effets esthétiques peuvent parfois être obtenus en utilisant des produits naturels et des techniques traditionnelles aussi. Ce qui fait, encore une fois, du concept de cuisine moléculaire un concept aux frontières très imprécises.
La gastronomie, contrairement à une idée fautive, c'est pas de la cuisine pour riche. Hein. Et moi, je me fiche de la cuisine pour riche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 10 millions de Français qui cuisinent chaque jour. Et ils ont des ingrédients, ils doivent en faire des plats. Il y a une activité qui s'appelle la cuisine, qui est une transformation. Et s'il y a une transformation, il y a des phénomènes. Et s'il y a des phénomènes, la science peut les étudier. Donc, c'est ça qu'on fait.
Alors, pour ceux qui voudraient en voir plus, je dirais, en savoir plus, donc il y a un site, hein, c'est donc www.science-et-gastronomie.com. Et donc, vous pouvez vous référer à ce site pour compléter cette chronique. Et puis, en fait, bon, pour conclure, j'ai surtout parlé des rapports complexes entre la science et la technique. Mais on pourrait aussi réfléchir sur les rapports complexes entre la technique et l'art, en l'occurrence, puisque, bon, de fait, les recherches actuelles, aussi bien dans le champ de la gastronomie proprement dite que de la technique, décuplent en fait les possibilités d'invention de nouveaux goûts, de nouvelles textures, de nouveaux plats, etc. Et le risque, bien entendu, on le voit, c'est que la technique prenne peut-être le pas sur l'art. C'est-à-dire que les cuisiniers tombent dans la facilité et en fait, il est très facile aujourd'hui de faire du nouveau, de surprendre avec ces nouvelles techniques. Et on peut penser que l'histoire, en quelque sorte, va procéder à une sorte de sélection et que les vrais créateurs, peut-être, les vrais créateurs culinaires d'aujourd'hui et de demain, seront ceux aussi qui sauront résister peut-être à cette facilité et à certains effets de mode.
Les chroniques gastrosophiques du professeur Rosmini, tous les dimanches à 13h30.